Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une conférence DFRWS à laquelle Frédéric Badelin et Solal Jacob ont assisté. Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonjour.
Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Frédéric, bonjour.
Salut.
Solal, bonjour.
Salut.
Donc vous êtes les fondateurs d'Arxis, une société qui développe un logiciel open source dédié à l'investigation numérique, donc qui s'appelle DFF. Donc DFF pour Digital Forensic Framework. Alors la conf DFRWS, déjà elle a lieu où ?
Alors elle change de lieu tous les ans. Donc là c'est la version Europe de la conf. À la base c'est une conf américaine qui a été créée en 2001. Et là c'est pour la version européenne. Cette année c'était en Suisse à Lausanne. L'an dernier c'était à Dublin. Et la première année il y a 3 ans c'était en Irlande.
À Amsterdam.
Ah oui, non, j'ai inversé.
À Amsterdam, la première année.
Et qu'est-ce qui caractérise alors cette conf ?
Alors, c'est une conférence plus orientée académique, on va dire recherche, sur tout ce qui est digital forensic, un peu incident de response, mais vraiment forensic. Et il y a un peu de tout, donc il y a du paper technique, voire très technique quelquefois, sur la partie, par exemple, analyse mémoire, ce genre de choses. Et il y a aussi plus les aspects légaux du forensique et comment faire une investigation, les bonnes choses à faire. C'est assez large, quoi. Donc c'est un peu le bon côté de la conf et ce qui déplaît aussi à certaines personnes qui aiment bien qu'un axe spécifique parce que du coup il y a un peu de tout.
Ouais, c'est ça. J'ai pas grand chose à ajouter, c'est à peu près ça. Après, ouais, comme le dit Solal, c'est il y a quelques personnes qui étaient déçues, qui s'attendaient à plus de pratiques, à plus de choses. Utiliser dans le quotidien plus d'outils de démontrer ou ce genre de choses en fait. Donc ça reste quand même vachement académique. Donc c'est des papiers derrière qui sont publiés avec des formules mathématiques, etc. Enfin ça va vraiment en profondeur quoi.
Parfois quand même.
Parfois ouais. Bon parfois c'est pas du tout le cas par contre. Et donc
voilà. Ouais, elles sont mal utilisées.
Comment ?
Donc on est tous les deux au comité de programme. Donc on a vu quand même les papiers passer aussi un peu. Et c'est vrai que les gens qui viennent, en fait, il y a beaucoup de law enforcement, un peu de partout. Après, il y a un peu des experts judiciaires, un peu des gens plus techniques du monde de forensique, des développeurs, ce genre de choses. Donc, c'est pareil, c'est un peu mélangé quand même.
Et tout en étant académique, est-ce qu'il y a quand même des choses utilisables dedans ou ça reste très haut niveau quand c'est du papier académique et c'est pas exploitable ?
Je trouve qu'il y a pas mal de choses utilisables. Il y a aussi des choses qui sont développées derrière, qui donnent des idées. Mais il y a des gens qui voulaient vraiment, dans le côté plus expert judiciaire, trouver une liste d'artefacts avec voilà ce qu'il y a et voilà ce que vous pouvez faire. Alors là-dessus, il y a eu des bons papers des Italiens de RealityNet qui font souvent des papers là-bas et qui ont fait une présentation, par exemple, sur les Windows Phone, Windows Phone 8, où ils t'expliquaient comment pouvoir retrouver les credentials, etc. Donc là, c'était assez technique, assez réutilisable direct derrière pour une investigation. Mais les autres papers, c'était un peu plus théorique. Ou alors, il y a eu quelques outils sympas. Par exemple, Google qui a montré une nouvelle méthode pour loader les modules, pouvoir dumper la RAM sans avoir le profil sous Linux. Mais alors, le paper était assez technique. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens
qui ont
analysé la RAM. Il y a pas mal de gens qui ont été perdus par le paper, mais qui utiliseront la tool au final, quoi.
Et donc, en guest star, vous aviez le FBI cette année qui est venu vous expliquer comment on faisait de l'autopsie numérique sur l'iOS sans avoir l'accord d'Apple.
Non, il n'y a même pas eu de paper de Cellebrite, puisque apparemment, c'est eux qui ont fait pour 200 000 dollars l'analyse. Mais il y avait le NFI, donc il y avait la partie hollandaise du FBI, enfin de ceux qui font beaucoup de forensique, par exemple. Il y avait un peu tout ce type de law enforcement représenté aussi. Et qui ont fait quelques présentations. Ils ont plus fait des débats sur comment retrouver une preuve, est-ce qu'elle peut être valide juridiquement ou pas, ce genre de choses. C'était un peu moins technique.
Ça et tout ce qui était aussi large scale forensic, donc analyse de plus en plus de données. Enfin, c'était d'ailleurs une des premières keynotes, c'était basé là-dessus justement, vers où on se dirige au niveau du forensic et de tout ce qui est la science en tant que telle et tout ça dans ce domaine-là, quoi.
Alors ça fait 10 ans qu'on en parle d'ailleurs de ce problème l'analyse de gros volumes de données. Il y a pas mal de papiers dessus, mais personne n'a vraiment trouvé de solution vraiment innovante. On reste toujours sur soit de l'échantillonnage, soit du pré-tri, mais il n'y a pas de vraie solution. Big data, par exemple, pour utiliser un gros mot. Il y a eu des choses nouvelles cette année, justement, présentées à DFAWS là-dessus.
C'était plus du débat. Après, il y a eu quelques papers sur l'analyse de cloud, mais en fait, c'était pas du large scale, c'était plus retrouver des artefacts.
Dans le cloud, ouais.
Ouais, dans le cloud de certains providers. C'était beaucoup pareil sur tout ce qui est documents Google, les spreadsheets en récupérant le JSON et on peut remonter sur tous les niveaux d'un document. En fait, chaque touche de frappe est enregistrée. Donc, ce qui est pas mal pour Forensic, on peut voir toute la création du document avec toutes les dates, etc. D'ailleurs, il y a un peu trop de données, mais ça, c'était assez intéressant aussi.
Ouais, c'était vraiment plus orienté Cloud Forensics, mais dans le sens toutes les métadonnées qui peuvent être accessibles autour d'un compte d'une personne à un service cloud, donc Dropbox, Gmail. Donc, par exemple, avec Dropbox, on peut avoir accès à toutes les révisions d'un document, avoir aussi des informations sur un document qui a été supprimé. Et ça, en fait, tout ça, c'est accessible directement par le biais des API de Dropbox. Donc ça, en l'occurrence, c'était les Italiens qui ont présenté un outil là-dessus, donc qui vont release aussi prochainement, normalement. Donc voilà, il y avait plusieurs petites choses à ce niveau-là. Après, il y a le NFI qui s'est pas trop étendu dessus, mais qui commence à faire du big data, justement, sur tout ce qui est text mining, data profiling, tout ce qui est données de finances, de réseaux sociaux et tout ça, mais ils sont pas rentrés dans les détails à ce niveau-là, quoi.
D'accord. Il y avait des Allemands aussi ?
Il y avait des Allemands. Ouais. Alors, il y a une université qui présente, qui est super bien, qui s'appelle FAU. Alors, ils présentent toujours des papers qui sont plutôt pas mal. Donc, cette année, ils ont fait un truc sur l'école Book Attack sur de la DDR3. Ils ont fait deux, trois autres papers plutôt sympas, ouais. Donc, ils sont pas mal présents. Il y a un peu
sur
de
tout, c'est
assez mélangé, quoi. C'est une conf vraiment européenne.
Il y avait aussi sur le RED, du coup, un autre étudiant qui avait présenté sur... comment déterminer en fait toutes les parties, enfin avec un RAID 0, un RAID 5 ou genre de choses, donc récupérer la taille des stripes, savoir aussi comment c'était remappé, etc. Donc il a fait tout un sujet de recherche là-dessus, et il a release aussi un outil en open source qui permet de savoir en fait comment remonter le RAID après avoir fait une acquisition sans avoir noté les informations au préalable. En fait.
Il est innovant son outil par rapport à ce qu'on avait avant.
Ben, il y a pas tellement d'outils là-dessus, donc je pense que c'est plutôt pas mal, surtout d'un outil gratuit open. Je pense que la méthode doit marcher plutôt pas mal. Après, c'est pas non plus une méthode complètement folle, mais c'est bien d'avoir ça.
Ouais. Sur le RAID 5, il disait qu'il avait 100% de résultats. Enfin, ça marchait à chaque fois. Et après, sur des cas particuliers avec beaucoup de fichiers, de petits fichiers ou genre de choses. Sur du RAID 1 de mémoire. Là, c'était un peu plus compliqué, mais il avait 95% par exemple de réussite. En fait.
D'accord.
Donc après, ouais, ça se base, en gros, grosso modo, ça se base sur l'entropie des blocs pour déterminer tout ce qui est parité, genre de choses. Donc il mouline toute cette partie-là, il fait l'entropie des différents blocs, il fait des corrélations. Et donc forcément, sur des disques qui vont contenir après des données qui sont chiffrées, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu la limitation. Quoi.
Tu disais, Solal, que c'était une conférence particulièrement européenne, mais c'est parce qu'il y a son pendant aux USA au mois d'août, non ?
Voilà, ouais, donc il y a la conférence américaine qui existe depuis un moment, et puis ils ont voulu vraiment faire ça en Europe, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui vont aux États-Unis, qui présentaient, et du coup, ça permet de renouveler un peu le truc, d'avoir des nouveaux papers en Europe, etc. D'ailleurs, il y a le président de la conférence, Yogan Kazé, qui est quand même pas mal connu dans le milieu du forensique, qui en a profité pour dire qu'il rejoignait l'université de Lausanne, donc qui est en Europe. Et c'est bien parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans le forensique et surtout ce qui est standard, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il fasse bouger un peu les choses en Europe. Et il veut aussi, justement, il y avait un débat là-dessus dans les matinées du workshop, parce qu'il y a une première journée de workshop, où on pouvait débattre sur quel serait le nouveau format, en fait, pour que tous les outils sortent un format commun, en fait. Il appelle ça DFAX, c'est un peu comme du STIX, mais pour le forensique, quoi.
Ah d'accord, le format échanger. Sortie de l'outil d'analyse alors.
Voilà, pour pouvoir l'échanger, faire des comparaisons entre les outils et pour que tout le monde puisse échanger un peu les données qui sortent.
Un format pour les gouverner tous.
Voilà.
Nous avons 14 formats incompatibles, créons un 15e format qui va tous les réunir.
Bah non, le problème, c'est que là, t'en as zéro pour l'instant, seul pire.
Il n'y en a pas vraiment de format, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. À part du CSV, peut-être pour certains, mais
ouais. Ouais, il y a des formats d'image, avec d'ailleurs le format standard qui s'impose pas trop, puisque AFF s'est jamais vraiment imposé. Hein.
Bah, il y a AFF4 qui est beaucoup mieux.
Avec Google, ouais.
Ouais, il est mieux, mais est-ce qu'il.
Non, il s'impose pas, ouais. Ouais. Les gens utilisent beaucoup les produits commerciaux, donc ils utilisent des formats d'image commerciaux.
Ouais, le format Encase, ouais, pour le nommer, ouais.
Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de format de sortie pour analyser de la donnée après derrière ou justement passer dans l'autre moulinette. Quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dans les workshops, alors il y a eu plusieurs choses, on les a pas tous fait. Il y a eu un workshop Plazo fait par Google. Et là, ça a été... en fait, il fallait écrire un script. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais la plupart des gens là-bas qui font de l'investigation, eh ben, c'est pas des développeurs. Et faire un petit script même en Python, c'est un peu difficile pour eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés au workshop. Je crois qu'il était un peu déçu de le speaker. Sinon, il y a eu un workshop sur Tranalyzer, qui est un analyseur de paquets qui devait être pas mal, mais on n'a pas pu y aller. Et il y a eu des workshops aussi sur tout ce qui était Virtual Currencies, qui était pas trop mal, mais pas super intéressant non plus.
Virtual Forensics, c'est-à-dire?
Non, Virtual Currencies, tout ce qui est monnaie, Bitcoin, etc.
Analyse de blockchain, etc. Quoi. Donc. Et du coup, ce qui est intéressant par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que les gars de cette boîte-là qui ont fait le workshop, ils ont recodé en fait tout un système en partant d'une blockchain, en fait, de régénérer un peu toutes les transactions du Bitcoin et puis de pouvoir continuer à faire du mining, faire des transactions, etc. en fait, de manière totalement déconnectée des réseaux originaux en fait. Donc ça, c'est plus pour de la simulation et voir un peu ce qui peut se passer. Tout ça, c'est le côté intéressant de leur outil, quoi. Ça s'appelait Bitcrime.
Du coup, c'était organisé comment? Il y avait une première journée qui est pré-conférence où il y a les workshops, et puis ensuite il y a deux jours de conférence.
Exactement. Ouais.
Voilà, donc premier jour workshop. Donc ça a plus ou moins plu parce que les gens s'attendaient pas à certaines choses, etc. Il y avait pas de choses assez, on va dire, techniques, basiques. Comment utiliser les outils, je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient plus à ça. Après, il y avait deux jours de conférence. Le premier soir, où il y a un petit pot dans un café. Et après, il y avait un dîner de gala. Et après, il y a le rodéo. Donc c'est le challenge du DFRWS.
Le rodéo. Qu'est-ce que ça a donné alors?
Tu montes sur une vache, c'est ça, ou sur un cheval?
Exactement.
CTF, c'est un peu leur CTF.
Ouais, c'est un peu le CTF. Donc, une fois qu'on a fini de manger, on sort son laptop, on reste à table, on fait des teams, et on doit faire une analyse forensique en 2 heures. Donc, cette année, on a fait le challenge avec Fred et des Italiens. Donc, on a gagné le challenge. Et, c'était une analyse, c'était un Raspberry Pi qui avait une caméra pointée pour surveiller des bouteilles de whisky. Et il y a quelqu'un qui est arrivé à router Raspberry Pi en faisant du bruit de force SSH, etc. Et qui changeait les images de la caméra pour aller voler les bouteilles de whisky, en fait. Donc, c'était assez fun. Après, il y a un petit binaire à reverse, etc. Donc, c'est assez marrant, en fait. Ça. C'est assez sympa.
Et vous avez gagné quoi?
On a gagné une clé USB, celle où il y avait la copie du dame du challenge. Donc, cette année, en Suisse, on était un peu radins. Les autres années... il y avait des trucs à gagner, mais pas cette année. Mais bon, c'était plus pour
On s'attendait plus à du chocolat.
Ouais, on était un peu triste.
On aurait pu offrir les bouteilles de whisky qui étaient surveillées, en fait.
Ouais, ça aurait été pas mal aussi. Et du coup, on pourra donner le lien du challenge, parce que c'est un challenge, on peut le récupérer sur le net, si ça intéresse des gens pour le faire.
Mais est-ce qu'il y a des solutions qui sont disponibles? Est-ce que vous allez présenter votre solution?
Ils nous ont fait présenter notre solution à la fin du challenge, du coup. Mais il n'y a pas de solution sur Internet. Parce qu'en fait, c'est un challenge d'université et je crois qu'on a jusqu'au mois de juin encore pour le faire, un truc comme ça.
Ouais, il est encore actif, le challenge.
Vous ne pensez pas publier donc votre solution?
C'est implémenter ButterFS quelque part, en fait, puisque du coup, le dump en question, c'était du ButterFS. Et après, il y a aussi toute la partie d'analyse de binaire au niveau ARM, en fait. Donc, c'était vraiment basé là-dessus, quoi.
Et est-ce que vous êtes appuyé sur le formidable outil qui est DFF pour faire tout ça?
Bien sûr, bien sûr. Alors DFF ne supporte pas le BetaRFS malheureusement, et il n'y a pas d'outil qui le supporte parce que enfin je l'ai pas testé.
Donc vous avez fait un driver alors?
Bon, en fait je l'ai mount et après je l'ai load dans DFF pour faire la timeline quand même. Vu que mount il préserve les data time, ça je pouvais quand même servir de DFF pour faire la timeline, etc. Mais ouais, faudra qu'on fasse un vrai driver en BetaRFS.
Plutôt que faire un plugin, il fait un truc quick and dirty.
Bah, on avait un peu 2 heures, donc c'était quand même rapide. Non, mais ouais, c'était assez sympa. Le gala, bon, ouais, c'était un repas dans un hôtel assez classique, mais c'était pas mal. Et ça qui a bon après c'est pas les mêmes ambiances que dans des confs comme le Stick, etc. Rue de la Soif, c'est un peu plus sérieux, on va dire. Le soir. Ça se finit un peu plus tôt.
Ouais, y a quand même un petit noyau dur un peu qui aime bien discuter, continuer la soirée, on va dire.
Mais c'est quoi, pas, les Français ou quoi?
Non, un peu tout, ouais. Les Irlandais, les Français, les Italiens. Ah, oui, petite...
ouais,
les
ça Américains. Fait une diagonale européenne, ouais.
Ouais. Et y avait 140 personnes, je crois.
144,
ouais. Ouais, 12 Français. Donc, à part nous, il y avait des gens CERTSG, il y avait l'ANSI, la DGA. Beaucoup de Suisses, pour le coup, parce que cette année, c'est en Suisse. Donc, je pense pas mal d'étudiants qui sont venus, parce que c'est dans leur fac. Et c'est une fac où il y a du forensique. Et sinon, un peu de gens d'un peu partout. Il y avait aussi un ou deux Américains, ou ouais, en plus des
Canadiens.
Ouais, des Canadiens.
Bon, des Pakistanais. Ouais. Des Coréens du Sud aussi.
Ah, les Coréens du Sud, d'accord. Ouais. Il y avait aussi des posters, donc ils ont présenté des tout le monde en poster au post-café. Donc c'était. Non, il y avait un peu de tout, donc après, les gens échangent plus ou moins entre eux, ça dépend un peu des. Mais, c'est aussi le but, quoi, c'est de voir ce que font les autres dans d'autres pays et puis de pouvoir échanger des projets sympas ensemble.
Et alors, si on doit choisir les deux conférences qui vous ont vraiment plu et qui vont vous apporter quelque chose au quotidien?
Ben, celle de Google était pas mal. Parce que l'outil va être pratique, quoi. Enfin, ça va être utile de pas avoir de profil pour pouvoir analyser un dump de RAM. Donc, ça, c'était bien. Sinon, ouais, moi, il y a pas mal de trucs qui m'ont plu. Après, dans les vraiment meilleurs, je sais pas, faut que j'ai réfléchi ça. Je sais pas toi pour toi, Fred.
Est-ce que tu peux rappeler soit le nom de l'auteur, soit quand ça a eu lieu, pour que les auditeurs qui voudraient aller voir sur le site, cfrws.org
C'était le deuxième talk de la première session, en fait. Automatic Profile Generation for Live Linux Memory Analysis. Donc, par Michael Cohen et Arkadiu Sokala, c'est lui qui a présenté. D'ailleurs, c'est un bon speaker, le gars, il est bien dynamique.
Ouais,
il
c'est un jeune.
Totalement son sujet, c'était vraiment intéressant, quoi.
Et il a gagné le Best Paper Award, du coup.
Ouais, aussi, ouais. Celle-là, et après, en autre intéressante...
Bah, ça dépend, il y avait plusieurs niveaux. Celle sur la DDR3, l'école Bouquet, qui était pas mal.
Ouais,
mais dans le niveau plus quelque chose qui va servir directement, c'était Windows Finite Artifact, je pense, qui était bien.
Mm-hmm.
Ouais, les Italiens sont bons aussi, puis c'est des bons speakers aussi, donc la conf était assez sympa. Il y a eu aussi des RAM sessions. Il n'y a pas eu énormément de papers de présenter, mais il y a eu... Il y a eu un petit truc sympa sur de l'analyse vidéo. Donc, où il montrait une vidéo, c'était quoi? C'était de Tsipras, c'est ça, Fred?
Ouais.
Où, quand il a dit fuck à l'Allemagne, et après, il a dit non, ça s'est pas fait. En fait, ils ont refait la vidéo pour pas qu'on voit qu'il fasse fuck. Donc, il utilisait son logiciel pour analyser et pour montrer comment ils avaient fait pour qu'on puisse prouver que c'était une fausse vidéo, en fait, que ça a été retouché après, quoi. Donc, celle-là était assez marrante de rappeler.
Ouais, en gros, il y a eu une vidéo, la vidéo originale qui a été balancée sur le web, comme ça, dans la nature, quoi. Et après, il y a eu une vidéo officielle, en gros, qui a été reprise par tous les médias, où là, en fait, on voyait plus le fuck. C'est juste qu'il a, en gros, ils ont joué, ils ont retravaillé sur le frame rate derrière et tout ça pour pouvoir décaler la vidéo. Et puis ils ont repris une séquence d'un mouvement de main qu'il avait déjà fait. Et voilà. Donc après, en analysant plus en détail la vidéo, on se rend compte qu'au final, il y a eu des modifications. Donc c'était assez intéressant.
Ça coûte combien l'inscription?
C'est assez cher. C'était dans les 500 et quelques francs suisses. Donc, ouais, ça c'est pas donné quand même.
C'est le même prix que des euros au final, les francs suisses.
Ouais.
Enfin, là-bas, c'est ce qu'ils font. Ils s'embêtent pas, quoi.
Ouais, ils s'embêtent pas pour la conversion, effectivement. Johan?
L'année prochaine?
Alors l'année prochaine, c'est en Allemagne, près du lac Constance. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon, ça peut être intéressant.
Une nouvelle thématique, spécifique ou
Il n'y a pas de thématique spéciale à la conférence, c'est toujours le forensique. Et après, en fait, ça dépend des papers qui sont reçus. Donc, ils essayent de regrouper par thématique d'après les papers une fois que la conf est faite pour faire des, par exemple, matinée, on parle que de RAM ou ce genre de choses. Quoi. Mais il n'y a pas de thématique spéciale.
Les vidéos sont disponibles sur le site web?
Non, il n'y a pas de vidéo.
Non.
Il y a les papers et les PDF et les présentations.
Encore. Ouais. Encore.
Alors, les présentations ne sont pas encore uploadées. Hein. Il n'y a que les papiers pour l'instant.
Qui sont disponibles, mais ils ne filment pas. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas être pris en photo. Surtout des Français, en plus.
Vladimir était là?
Non, il n'était pas là, je ne crois pas.
Non.
Bon, on a fait le tour. Vous voyez d'autres choses à ajouter?
Après, ouais, si, pour parler plus des aspects théoriques, il y avait des présentations qui étaient une présentation qui était assez marrante, enfin assez sympa. C'était comment travailler autour de l'absence de preuves, en fait. Donc c'était un Suisse, qui était rattaché auprès du ministère de la justice suisse, grosso modo, qui revenait en fait sur un cas. D'homicide, en gros, d'un mari qui a balancé une grenade sur sa femme. Mais du coup, la femme n'a pas eu le temps de voir la personne en question, mais ils étaient persuadés en fait que c'était le mari. Et en fait, ils se basaient à la base sur la présence de la personne par rapport à son téléphone portable s'il était dans le coin. Et donc, il revenait sur toute cette partie-là à partir de l'absence de preuves, vu qu'il n'avait pas son téléphone sur lui, si on pouvait disculper tout le cas. Donc, c'était plein de théories derrière de la probabilité, enfin des probabilités appliquées à la défense d'un cas, etc., etc. Donc, c'était assez marrant, ça sort un peu du contexte, on va dire. C'était ça qui était intéressant. Donc ça, il y avait aussi une partie qui était pas mal, enfin qui était intéressante. On se demandait un peu ce que ça allait donner au début. C'était A scalable authorship verification method for different languages, journals and topics. Et en gros, c'est du machine learning pour comprendre en fait des documents, des personnes qui rédigent des documents, donc des documents Word, des articles de blog, etc. Et pour pouvoir dire en fait à partir d'un document inconnu que c'est telle personne qui a écrit le document en question. Donc ça, pareil, c'est assez intéressant. C'est des gens de chez Fraunhofer derrière qui ont fait la présentation. Donc voilà, des choses qui sortent un peu, on va dire, du contexte. Et puis aussi en choses marrantes, donc ça c'était les présentations courtes, des Suisses qui sont en fait, qui ont investigué un peu tout ce qui est les marketplaces dans le darknet, de tout ce qui est vente de drogue en fait. Et donc du coup ils ont fait une demande préalable bien sûr au gouvernement pour pouvoir acheter de la drogue légalement sur les marketplaces. Et en fait derrière, en gros, le but c'était de croiser de récupérer en fait du coup la drogue en question. Donc ils analysaient les packages, donc pour voir comment c'était emballé et tout ça, enfin voilà. Donc à partir de là, ils pouvaient faire des patterns de voir les différents groupes qui pouvaient exister. Et après, ils faisaient aussi des analyses chimiques des drogues et du coup ils ont pu voir aussi que ça matchait avec des drogues qui étaient récupérées dans la rue en fait pendant des arrestations. Et donc, ils ont pu matcher comme ça que certaines drogues qui étaient vendues étaient exactement la même que de la drogue qui était vendue à Lausanne.
Est-ce que l'histoire dit ce qu'ils ont fait des drogues achetées sur Internet?
Ils les ont ramenées au social event. Non,
On ne sait pas. Je pense qu'ils ont dû les détruire, à mon avis.
Donc, vous recommandez d'aller à cette conférence l'année prochaine ou alors, d'aller aux États-Unis cet été?
Bah pourquoi pas, ouais, si vous êtes intéressé par le sujet du forensique, à la fois sur les parties techniques et plus vraiment investigation, moi je recommande la conférence. Ça serait aussi surtout très bien que c'est des Français qui soumettent des papiers, parce qu'il y a en 3 ans, je crois pas que j'ai vu de papiers de Français, ou alors pas beaucoup. Non, ça serait bien aussi, quoi. Et qu'il y ait plus de Français qui viennent, parce que cette année il y avait plus de Français, quoi.
Il y en a de plus en plus tous les ans quand même.
Ouais. Vous savez qu'on est passé, il y avait 12 cette année, on devait être 8 l'année d'avant, on devait être 3 la première.
La première année, on était 4,
ouais, je crois. 4, ouais. Ça double quand même tous les ans.
Bah, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'autopsie numérique, c'était quelque chose qui était fait par des professionnels qui s'intéressaient au sujet, mais c'était même pas enseigné. Donc le fait de passer par des cursus universitaires et de présenter ça à des élèves, ça peut au moins ouvrir des vocations ou éveiller l'intérêt.
Enfin, c'est quand même pas considéré comme une discipline académique noble.
Ah bah, de toute façon, en sortant tes études, ce que veulent faire les jeunes maintenant, c'est soit consultant, soit pentester.
Oh bah non, c'est fini ça. Maintenant, ils veulent faire de la red team ou écrire des exploits pour des vendeurs d'armes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines bien le circuit universitaire, comme tu dois citer des papiers, être cité par d'autres, etc., et puis qu'il faut plaire aux profs en place pour en citant ces papiers et autres, ça fait aucun sens. Tu peux pas démarrer une nouvelle activité, en fait. Tu peux pas explorer un champ d'activité qui est complètement neuf, complètement vierge, parce que du coup, c'est pas... T'as ni le soutien de ta hiérarchie, ni les points qu'il te faut pour être bien vu.
De toute façon, l'investigation, ça plaît à personne, parce qu'on voit bien que la justice arrête pas de dire qu'elle a pas d'argent en France, donc ça va pas, aider.
Après, sur le côté universitaire, c'est peut-être en France, parce qu'en Europe, il y a des, il y a le PFL à Lausanne, et en Irlande, à Dublin, il y a l'UCD, où il y a des vrais cursus de forensique.
Et FAU, là, du coup, là,
FAU en Allemagne,
FAU
ouais.
aussi, où ils font beaucoup de papiers au niveau forensique.
Donc, je pense que c'est surtout la France qui est en retard là-dessus, sur le côté universitaire.
Oui, mais je te dis, il y a un problème de bootstrap, quoi. À partir du moment où c'est pas une discipline noble et il n'y a pas de conférence de premier plan, comme ils disent, grade A en France, ça n'intéresse personne, quoi.
En France, ouais, c'est possible.
Bon. Eh bien, Frédéric, Solal, un grand merci de votre participation à cet épisode.
Merci.
Merci.
Chers auditeurs, nous vous incitons donc à vous rendre l'année prochaine à cette conférence. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.